grand patron français de Suez, Gérard Mestrallet, en 1997.
Le Tractebel est une remarquable entreprise avec des dirigeants de très grande qualité. Cette entreprise a maintenant une dynamique qu'il importe d'encourager et surtout pas de freiner. Et donc nous souhaitons que la stratégie internationale de Tractebel se poursuive avec le même succès que par le passé.
Mais l'indépendance de Tractebel irrite l'actionnaire français qui souhaite prendre de plus en plus le contrôle total de l'entreprise. Le patron de Tractebel, Philippe Baudson, démissionne en 1999 pour divergence de vues. Et lorsque Suez rachète la totalité des parts de Tractebel, dont il ne disposait pas encore, Philippe Baudson parle lui carrément de manipulation.
Il y a une série de gens qui avaient dit « Baudson est un peu triste parce qu'il a perdu son job, c'est normal, il faut comprendre, c'est l'amertume ». Moi, je l'avais dit quand même. Je l'avais dit haut et clair, mais je reconnais que j'ai fait une formidable erreur. Je n'avais jamais pensé que ça se passerait au mois d'août. Mon résumé de la situation, c'est que peut-être il n'y a pas eu une véritable promesse. Monsieur Dehaene, d'ailleurs, j'imagine, s'exprimera à ce sujet. Mais nous, les Belges, nous avons été manipulés.
Éric de Keulener, on s'est fait manipuler, comme le dit Philippe Baudson, l'ex-patron de Tractebel.
On s'est fait manipuler, mais on a quand même aussi été victime de cette mentalité de ce capitalisme latin un peu ancien. Il est vrai qu'en 97, Philippe Baudson, avec l'aide de certains, dont certains médias, avait forcé la main pour obtenir que Tractebel reçoive un certain nombre d'articles dans ses statuts, donc c'était garanti dans ses statuts, qui lui donnait son indépendance. Mais la première fois que Suez a voulu combattre cela, les personnes à qui avait été confiée la surveillance de cette indépendance ont malheureusement très rapidement laissé tomber les bras, et le gouvernement qui en était le garant a également laissé tomber les bras. Jean-Luc Dehaene, dont on a malheureusement déjà parlé, disant « oui, c'est l'actionnaire qui a le contrôle, hein, donc c'est lui qui décide ». Donc cette idée que des grandes entreprises n'avaient pas besoin nécessairement, et Tractebel n'avait certainement pas besoin du contrôle de Suez, tout ce qu'il y avait de bon dans Suez, c'était Tractebel. Tout le reste dans Suez perdait de l'argent.
C'était vraiment les joyaux de la couronne, on peut dire comme ça.
Tractebel faisait régulièrement, année après année, 110, 130% des bénéfices de tout le groupe. Tout le reste du groupe était en perte.
Oui, Béatrice Delvaux, là-dessus, sur cette aftermath de cette prise de contrôle de la Générale par Suez. Donc il y a évidemment ce cas très emblématique de Tractebel, qui possède donc une partie d'Electrabel, c'est un peu compliqué, on va pas revenir sur tous les détails, mais donc les centrales nucléaires notamment, et là on voit bien comment ça nous concerne aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est fait manipuler? Si on replace en 88, la grande promesse de Suez, c'était que vous resterez indépendants, les Belges, hein, vous avez gardé le contrôle.
Oui, mais on s'est fait manipuler, mais surtout, on a été naïfs, parce que Suez, c'était notre meilleur ami quand il est venu aider, il a racheté la Générale, mais c'était formidable. On se ressemblait tellement entre la Générale et Suez. C'était les mêmes gens, on parlait de la même façon, on mangeait de la même façon, on voyait les mêmes mondes. Et puis seulement, le problème, c'est que Suez, après, il a eu bien des soucis. Je me rappelle qu'on avait fait une enquête à un moment donné, c'était Suez 5 ans, rien que du malheur. Et soudain, l'enjeu pour Suez n'était plus de savoir si la Générale se portait bien, mais de savoir comment Suez allait survivre. Et des années plus tard, Mestrallet le dira en disant, si on n'avait pas eu la Générale de Belgique à l'époque, on serait mort. Et en tout cas, moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Et donc, la trahison, en fait, elle se fait. C'est un matin où, d'ailleurs, Philippe Baudson est réuni avec son comité de direction. Il ouvre le Figaro. Et à l'époque, ça se passe un peu comme ça. Donc, il y a un manchette dans le Figaro. Et là, il perd sa tasse de café. Il devient dingue. Et là, il entre en guerre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il lit dans le Figaro? Que Suez a décidé de laisser tomber tout ce qui était financier pour se consacrer sur ce qui est plutôt utilities. C'était la Lyonnaise des Eaux, qui était une filiale qui se trouvait dans Suez. Mais il développe surtout un nouveau concept pour sauver sa peau, en fait, Suez, hein, qui est une holding qui, en fait, n'a pas de raison d'être, hein, sauf d'être actionnaire. Il développe un concept très français qui s'appelle le multi-utility. Et dans le multi-utility, Tractebel n'est plus un être qui doit être indépendant, mais Tractebel va être la la vache à lait qui va nourrir la croissance de Suez et la survie de Suez. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'on ne se rappelle pas aujourd'hui, parce que les Travel est devenu pauvre richon, en fait, même avec beaucoup d'expertise, etc. Mais Tractebel, c'était une, avec Electrabel, c'était un joyau absolu, c'était un des meilleurs de sa division en Europe, qui allait à la conquête du monde. Il a racheté des sociétés à l'étranger, à Gerasoul, au Brésil, etc. C'était une expertise inouïe. Et soudain, la colère était terrible, place du trône où ils avaient leur siège, parce que soudain, ils se disaient, ah, mais ces actionnaires français, ils y connaissent rien, ils sont en train de se planter, et c'est nous qui allons les sauver. Et tout ça, avec l'aide perverse, dira Baudson, d'Albert Frère. Parce que Albert Frère, entre-temps, au courant de toute cette affaire, est rentré dans Suez.
Et ça, alors, c'est un nom qu'on n'a pas encore beaucoup cité dans cette affaire de la Générale, parce qu'on a entendu les Lipens, les Davignon, les Lamy, les De Benedetti, Alain Minck. Mais alors, bon, c'est vrai qu'il y a Albert Frère qui a son ombre derrière cette affaire, en tout cas dans ces années-là de la vente un peu par appartement de la Générale, parce qu'il était actionnaire lui aussi avec la Générale de certaines sociétés. Bon, il a un rôle important dans cette affaire, Éric de Keulener, Albert Frère.
Oui, il a un rôle très important. En 88, il a très très habilement manœuvré pour monnayer à un moment donné son appui à Suez. Et la monnaie d'échange, c'est qu'il reçoit pratiquement 25% de Tractebel. Et il est censé, alors que Suez a 35-40% de Tractebel, Frère avec 25% et sa présence belge est censé être le contrepoids de Suez.
C'est ça, garantir l'ancrage belge, justement.
Et voilà, oui. Et garantir une sorte d'indépendance, de neutralité. Et c'est là que on voit à quel point cette notion d'actionnariat et d'indépendance par un actionnariat d'un certain type est une notion fallacieuse qui va être fatale à beaucoup d'autres entreprises belges,
oui,
y compris Fortis plus tard, parce que c'est une telle fixation qu'on ne défend pas suffisamment les règles qui, dans beaucoup d'autres pays, assure que les grandes entreprises restent indépendantes.
C'est ça.
Et que des actionnaires, même s'ils ont 20 ou 25%, ils peuvent rien dire. Et donc, si on peut rien dire, bon, on n'a pas envie d'être actionnaire à 20 ou 25%. En Belgique, on pouvait avoir le pouvoir avec une participation assez faible et très souvent aux dépens des actionnaires minoritaires.
Oui, mais donc, Béatrice Delvaux, Albert Frère, qui était censé garantir cette indépendance et les intérêts de l'entreprise, ou pas peut-être même les intérêts belges, mais en tout cas les intérêts de Tractebel, qui possède, on le rappelle encore, hein, ses centrales nucléaires notamment, mais il n'y a pas que ça dans Tractebel, enfin c'est le joyau, il n'a pas défendu les intérêts de Tractebel et de la Belgique, historiquement ?
Ça, c'est un peu le mystère qui reste entier, en fait, parce qu'on n'a jamais su réussir à élucider si le jour où Albert Frère décide finalement d'investir dans Suez, ce qui paraissait de bon aloi, enfin bon, personne ne se posait trop de questions, s'il était déjà au courant que Suez allait faire main basse sur Tractebel. Baudson en était persuadé, on n'a jamais su le prouver, en fait. Et donc, en fait, Frère, il faut savoir qu'Albert Frère, il a toujours suivi dans tous les dossiers dans lesquels il a investi, il a toujours suivi son intérêt, en fait. Et il n'est pas acteur que de ce dossier-là. Il a vendu la BBL à ING, il a vendu les compagnies d'assurance, etc. Donc c'est un homme qui faisait de l'argent dans les plus-values. Et donc, son métier, finalement, c'était de faire des coups, de revendre. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a développé une grosse gourmandise et un grand plaisir à être à Paris, c'est-à-dire à être petit actionnaire. Et on le disait toujours, ah, mais il ancre la Belgique. Même le roi lui a donné son titre de baron, parfois, en espérant que ça l'empêcherait de vendre de la Belgitude à l'étranger. Ça n'a pas fonctionné. Et il était à Paris dans le cercle du pouvoir. Par exemple, Mestralet lui téléphonait tous les samedis, mais jusqu'à sa mort, en fait, pour parler avec lui. Et la troisième chose, c'est que son rapport à Tractebel était assez particulier. C'est un rapport personnel difficile avec Baudson, parce que quand Baudson a été nommé à la tête de Tractebel comme patron emblématique, Baudson très vite trouve qu'il y a trop de dividendes qui sont versés aux actionnaires, dont Albert Frère fait partie.
Ah oui.
À ce moment-là, Albert Frère dans le conseil, et Baudson décide que les dividendes doivent être réinjectés dans l'entreprise, cet argent-là, pour développer assurer le développement de Tractebel. Il se dit que Albert Frère, ayant été averti de cela, n'a plus jamais remis les pieds au conseil d'administration de Tractebel. Et je le sais pour l'avoir vécu de près, il a été parmi les architectes du licenciement ou du fait qu'on a viré Baudson à l'époque en lien avec Mestralet.
Oui, donc il y a des luttes d'intérêts, mais aussi des luttes d'égo hein, dans cette affaire depuis le début, dans les grands noms autour de la générale. Ouais. Et puis même de Tractebel, on voit que ça joue quand même. Hein, les inimitiés personnelles, les vengeances dans cette affaire.
C'est... Oui, sur la couverture du livre, on n'a pas mis des graphiques et des photos de la générale de Belgique, on a mis des têtes hein, de gens.
Donc les balles des empires. Hein,
oui, oui, mais c'est ça, voilà.
Qu'est-ce que vous avez écrit là-dessus?
C'était extrêmement passionnant aussi à suivre pour cela, parce que c'était beaucoup lié à des relations interpersonnelles, il y avait un web incroyable.
Éric de Keulener, est-ce que ce qu'on connaît avec Engie aujourd'hui, où quelque part on subit les décisions prises à Paris, on l'aurait connu avec Tractebel resté à la maison?
Ce qui est certain, c'est que la générale de Belgique, Tractebel, la générale de banque, donc tout ce qui tournait autour de la générale de Belgique, fonctionnait avec un souci de rentabilité qui variait un peu d'une entreprise à l'autre, mais avec quand même globalement un souci de l'intérêt de l'économie nationale. Alors, on utilisait parfois abusivement cette notion d'intérêt de l'économie nationale pour justifier qu'on avait perdu de l'argent. Mais il y avait quand même... il y avait des choses qu'on faisait, des choses qu'on ne faisait pas. Après la prise de contrôle totale de la Générale de Belgique et de Tractebel par Suez, devenu après Suez Gaz de France et maintenant Engie, il y a eu, comme on l'a rappelé, des épisodes où le reste du groupe était souvent en perte. Il fallait que le secteur électrique belge rapporte de l'argent et rapporte de plus en plus d'argent. Et il y a eu des moments où il n'y avait vraiment plus de limites. Il fallait que ce soit plus rentable. Aujourd'hui, on a souvent l'impression que les engagements qui ont été pris dans le passé, quand on a amorti rapidement les centrales nucléaires, il a été dit, répété, il y a des conventions qui existaient. Plus tard, l'électricité en Belgique sera d'un prix stable et bon marché parce que les consommateurs ont dû payer leur électricité plus cher pendant un certain temps. Mais après ça, on aura vraiment un excellent outil, bon marché, etc. Et puis on oublie toutes ces promesses et on dira « maintenant, c'est la loi du marché qui compte ». Ce genre de comportement n'était pas le comportement de la Générale de Belgique. Avec tous ses défauts, ils avaient quand même une certaine éthique des affaires.
Éthique des affaires, c'est important, c'est Béatrice Delvaux. Est-ce que on peut imaginer une forme de nostalgie de la Générale de Belgique aujourd'hui, quand on regarde le paysage, je ne vais pas dire un peu dévasté, mais enfin, du capitalisme francophone où nos intérêts sont quand même largement à l'étranger, dans le bancaire, dans l'énergie, des intérêts quand même stratégiques? Est-ce que, quelque part, on aurait raison de se dire on avait plus le contrôle avant, on maîtrisait mieux notre destin économique avant, ou est-ce que c'est de la nostalgie mal placée?
Bah moi, je dirais que c'est pas de la nostalgie qu'on éprouve, c'est de la colère. Moi, toujours autant d'années après, j'ai une forme de... Oui, je suis abasourdie, mais je suis toujours en colère parce que je pense que les mêmes mots persistent aujourd'hui. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de vision stratégique sur ces enjeux de grands secteurs qu'il faut développer. Il n'y a pas un État stratège qui peut accompagner. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup accusé ou pointé le rôle d'Étienne d'Avignon. Moi, je l'avais même dit une fois, et à la fin, c'est toujours d'Étienne d'Avignon qui reste, parce que chaque fois qu'il a été à la tête de quelque chose, on vendait l'entreprise à l'étranger. Oui. Le patron était viré, mais lui restait. Hein. Ça s'était passé aussi à Brussels Airlines. Et dans une interview, il s'est très fort fâché, il m'a dit « Mais tous ces couillons qui disent que moi, j'ai tout vendu, oui, ils étaient eux, quand moi j'ai essayé quand même de sauver les pots cassés. » Et les couillons, c'est les capitalistes, c'est les 50 patrons qui avaient par exemple fait une liste pour dire qu'il fallait absolument sauver la Sabena. Mais il dit, mais où est-ce qu'ils étaient quand on a demandé de l'argent? Les couillons, c'est Dehaene à qui il essaye d'expliquer, mais écoutez, il faut ancrer Tractebel, qui dit, bah non, à un moment donné, il n'a pas l'argent. Les couillons, c'est le gouvernement qui est en affaires courantes et qui à ce moment-là ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Les couillons, c'est peut-être aussi les Flamands qui à un moment donné ont dit, bah tiens, pas nous, ou les francophones qui ont dit, on veut pas des Flamands. Et donc, ils ont d'ailleurs essayé d'Avignon et Hansen à l'époque. À un moment donné, Suez a été
encore... Jean-Pierre Hansen qui était le patron
de
Tractebel.
Oui, tout à fait. Donc ils ont essayé, parce qu'à un moment donné, Suez a été en grave difficulté. Gérard Mestrallet était déjà son patron à l'époque. Il y a eu une deuxième époque de grandes difficultés financières. Suez était menacée. Et il y a eu une tentative de putsch interne où les Belges ont essayé de racheter Suez et de faire ce qu'on appellerait une reverse bid des années plus tard, c'est-à-dire une offre à l'envers.
Oui, un peu la revanche.
Oui, absolument. Mais ils ont été stoppés, ils l'ont toujours regretté. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus les prendre. Ils ont été victimes d'une situation sans capitaliste pour mettre de l'argent, sans capitaliste belge et sans État à leur côté pour les aider.
J'allais dire, c'est peut-être ça, Éric de Colonnière, qui est frappant, c'est que l'État est resté très neutre, finalement. Un peu, je vais dire le mot, libéral, quoi. Voilà, ça se passe, on prend le, il y a une OPA, on perd le contrôle, on laisse faire.
Tout à fait, avec une très mauvaise compréhension de ce que devait être et pouvait être le rôle de l'État. D'une part, avoir quand même des règles qui permettent de défendre l'indépendance des entreprises. Et puis alors, le rôle de l'État comme acteur. J'étais régulièrement en 88 dans les bureaux de la Générale de Belgique où on voyait la banque Lazare qui était l'émissaire du groupe dont faisait partie la compagnie de Suez. Et de temps en temps, on entendait qu'Edouard téléphonait. Edouard Balladur était Premier ministre à l'époque.
Ah oui, il y avait des liens directs.
Alors, pour moi, il est évident que c'était sur instruction, et en tout cas avec des espèces d'encouragement et probablement des promesses que on leur permettrait d'aller au bout du projet.
En tout cas, il y a de quoi avoir un goût amer quand même dans cette histoire de la Générale qui est devenue un peu une coquille vide et qui est officiellement décédée en 2003. Merci tous les deux d'avoir été là. Merci Béatrice Delvaux. Je rappelle